Bonsoir, comment allez-vous? Vous savez ce que c'est qu'un drone? Il a des hélices, hélas, c'est là qu'est l'os. Si par exemple, vous vous sentez à l'abri des regards dans votre petit jardin clos de murs, vous serez effectivement à l'abri des regards de vos voisins et vous pourrez vous bronzer les fesses peinards au dernier soleil de septembre. Mais vous ne serez pas à l'abri des regards du drone, pour qui c'est un jeu d'enfant de survoler votre jardin et vos fesses. Maintenant, imaginez que vos fesses soient des secrets défense ou des secrets industriels. Que faire pour empêcher les drones de survoler ces zones interdites? Ils sont petits, légers, rapides. Le Parisien aujourd'hui en France écrivait il y a quelques jours que les Hollandais avaient trouvé la parade. À votre avis, de quoi s'agit-il? Filets, rayons laser, alarme? Non point. Ils envoient des aigles bouter les machines hors des zones interdites. Il suffit de dresser les rapaces en mettant de la viande sur des drones, comme ça. Quand ils en voient un, ils se jettent dessus. Et un aigle, c'est puissant. L'autre, avec sa petite technologie fine, il peut toujours appeler sa mère. Il est mort.
Je m'appelle Tom. J'ai 7 ans, je suis au CE1. Je voudrais savoir si les animaux ont une mémoire. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonjour Tom. Alors, nous proposons ton intéressante question à Francis Eustache, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où tu iras peut-être.
Oui Tom, c'est une très bonne question. On peut dire que tous les animaux ont une mémoire, même les animaux les plus simples. Et Eric Kandel a eu le prix Nobel il y a quelques années parce qu'il a travaillé sur un animal très simple qui est une limace de mer. Plus on monte dans l'évolution phylogénétique, c'est-à-dire l'évolution des espèces, et meilleure schématiquement est la mémoire. Chez les animaux, en fait, la question qui se pose, c'est la nature de leur mémoire. Est-ce que les animaux ont une mémoire épisodique? C'est-à-dire, est-ce qu'ils forment des souvenirs? Alors ça, c'est vraiment un grand débat chez les scientifiques. Et il y a une scientifique tout à fait remarquable qui s'appelle Nicole Clayton, qui travaille à l'université de Cambridge en Angleterre, qui a travaillé avec des geais, qui sont des animaux qui ressemblent un petit peu aux pies. Et en fait, elle a utilisé le fait que ces animaux cachent la nourriture. Ces animaux, quand ils ont suffisamment à manger, bien, ils vont cacher la nourriture à différents endroits. Elle a comme ça des geais dans des grandes volières et elle donne à ces animaux différents types de nourriture. Des denrées périssables, comme des petits asticots ou des baies comme les fraises, les framboises, donc qui sont des denrées périssables. Et puis des denrées beaucoup plus durables, comme des graines. Elle donne ces différents ingrédients, ces différents mets à ces oiseaux. Les oiseaux préfèrent les baies et les asticots aux graines et ils cachent ces denrées à différents endroits. Et ensuite, les oiseaux sont enfermés dans une petite cage. Et si, en fait, les oiseaux sont relâchés très peu de temps après, une heure après, eh bien, qu'est-ce que font ces oiseaux? En fait, ils vont directement aux baies ou aux asticots. Mais si les oiseaux sont relâchés 8 jours après ou 15 jours après, eh bien, ils vont directement aux graines. Parce qu'en quelque sorte, ils savent que les asticots, 8 jours après, eh bien, c'est plus bon à manger. Et c'est la même chose pour les fraises. Par contre, les graines sont toujours très bonnes à manger.
C'est génial.
Donc voilà, ils ont ce qu'on appelle le quoi, c'est-à-dire le quoi, est-ce que c'est une denrée de tel ou tel type? Ils ont le « où », puisqu'ils peuvent retrouver la cachette, mais ils ont également le « quand », qui est une notion extrêmement difficile. C'est-à-dire savoir quand on a fait telle ou telle
bien
chose.
Bien sûr, bien sûr. Ils savent le 8 jours. Est-ce qu'un animal, Francis Eustache, plus il est gros, plus il a de mémoire? Donc, est-ce qu'un ours a plus de mémoire qu'un gerbe?
Alors non, c'est pas du tout proportionnel. Et justement, l'exemple que j'ai pris là des oiseaux, les oiseaux ont en fait un petit cerveau proportionné à la taille du corps. Et en fait, ils ont pourtant une très bonne mémoire. Et il y a d'autres animaux, comme même des invertébrés, comme les seiches, les poulpes, qui ont un cerveau assez rudimentaire et en fait qui ont aussi une très bonne mémoire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Gros cerveau ne veut pas dire forcément grande mémoire.
C'est intéressant, hein? Francis Eustache a écrit pour vous, les enfants, chez Le Pommier, les chemins de la mémoire. Alors, ce soir, au petit bateau, Marion a demandé pourquoi Louis XIV était allé habiter en banlieue, à Versailles. Geoffroy aimerait savoir s'il faut terminer les phrases des bègues ou bien s'il faut les laisser se débrouiller tout seul. Et enfin, Chloé se demande comment l'éolienne fait pour transformer le vent en électricité. C'est la première fois que Patrick Voileau vient au petit bateau. Alors, nous, les filles, Marjorie, Flora, Noël, on n'était pas spécialement portés sur les bijoux en général et les pierres précieuses en particulier. Et ben, maintenant qu'il est venu, si.
Bonjour, je m'appelle Sarah. Je voudrais savoir s'il existe des pierres précieuses de toutes les couleurs. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Sarah. Patrick Voileau, vous êtes spécialiste justement des pierres précieuses et vous venez d'écrire un livre aux éditions Trésor sur la piste des pierres précieuses. Alors Sarah se demande s'il y en a de toutes les couleurs. J'essaie de réfléchir en même temps que je vous parle. Il y en a de pas mal de couleurs en tout cas.
Oui, Sarah, tu as raison. Il y a des pierres précieuses de toutes les couleurs.
Ah ouais ?
Il y en a des complètement transparentes, blanches, comme le diamant, mais il y a aussi du quartz qu'on peut considérer comme une pierre précieuse, le cristal de roche qui est transparent. Mais après, on a tout un panel de pierres de toutes les couleurs. Bien souvent, on ne sait pas que les saphirs que l'on pense être bleus, il en existe des roses, des jaunes, des verts, même des bicolores.
Rubis, c'est rouge ?
Alors, le rubis, c'est toujours rouge.
L'émeraude ?
L'émeraude, c'est toujours vert, mais dans la famille de l'émeraude, qui est en réalité un béryl. L'émeraude est formée d'un métal rare qu'on utilise pour faire les fusées, qui s'appelle le beryllium, et la famille s'appelle le béryl. Et dans cette famille, on a l'émeraude qui est teintée avec du chrome en vert, mais on a l'aigle marine qui est bleu ciel, qui est teintée avec du fer et de l'aluminium. On a le béryl héliodore qui est teinté par du fer et qui est couleur héliodore, c'est-à-dire soleil. C'est un jaune très intense. On a la morganite qui est rose. Son nom vient de Morgan, qui était un géologue qui l'a découvert et décrite. On a un béryl rouge aussi. On a
violet, qu'est-ce qui est violet ?
Violet, on a l'améthyste. Ça, c'est dans les quartz. Comme le cristal de roche, l'améthyste est violette, mais on trouve aussi des saphirs violets, saphirs mauves, qui sont très rares et très recherchés aujourd'hui. On a, pour reparler des saphirs, on a un saphir extrêmement rare qu'on appelle paparacha. Paparacha, ça veut dire fleur de lotus en cingalais. Et c'est un rose orange qui est une couleur extraordinaire et très rare.
Est-ce qu'il existe, Patrick Voileau, des pierres précieuses noires ?
Alors, on n'a pas parlé du diamant, qui est un peu la reine des pierres précieuses.
Ouais.
Mais il y a du diamant noir. Dans le diamant, on pense tous qu'il existe des diamants blancs et transparents. Mais il existe des diamants de toutes les couleurs aussi. C'est-à-dire, vous avez des diamants jaunes, on appelle ça jonquille. Vous avez des diamants roses, vous avez des diamants verts. Il y en a un qui est très connu, qui est dans la crypte de Dresde, qui s'appelle le vert de Dresde d'ailleurs. On a des diamants rouges, qui est sûrement la matière minérale la plus chère du monde. Le diamant rouge, on en connaît une trentaine ou une quarantaine, peut-être maintenant, au monde. Et 0,2 grammes, c'est-à-dire un carat de diamant rouge, ça coûte 1,5 million, voire 2 millions d'euros.
Bon, faut pas oublier sa bague sur le bord du lavabo. Hein.
Voilà, oui, c'est un peu... Voilà, donc, des pierres précieuses, il y en a de toutes les couleurs.
Eh ben voilà, vous êtes comme nous. Maintenant, à cause, ou plutôt grâce à Patrick Voileau, ces pierres précieuses, on a envie de les voir et peut-être même de les avoir.
La vie c'est bon, 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 mais pas trop quand même. Simple.
La vie, c'est bon, 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 mais pas trop quand même. Qu'en pensez-vous? C'était Vaudou Game.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe? Vous faites le 01 56 40 43 57 et nous trouvons des spécialistes pour répondre.
Bonjour, je m'appelle Geoffrey, j'ai 20 ans et j'aimerais savoir si quand quelqu'un bégaye, il faut finir ses mots pour l'aider ou bien il faut le laisser se dépatouiller tout seul. Merci, au revoir.
Bonsoir Geoffrey. Docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel, vous êtes ORL et vous êtes spécialisée dans le bégaiement. Alors faut-il l'aider ou faut-il le laisser se débrouiller tout seul le bégue?
Alors la personne bégue ou la personne qui bégaye, eh bien ça va être selon. Si c'est un enfant, l'enfant n'a pas d'amour propre et plus on va l'aider, mieux il va attraper la perche qu'on va lui tendre et enclencher comme nous on le fait quand on cherche un mot. Si je vous dis le verre, eh bien, ou si vous devinez avant moi, vous le dites, eh ben j'enclenche.
Ça donne de l'élan.
Tout à fait. Et puis ça prouve que la personne est bien branchée sur le même espace de référence que moi. On parle bien des mêmes choses en même temps. Il peut arriver plus tard que, à cause de toutes les blessures d'amour propre que la personne bègue va avoir au fur et à mesure des moments où elle aura vécu des choses désagréables dans le bégaiement, qu'elle puisse essayer comme ça de se prémunir, de garantir. Elle dit non, 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 je peux y arriver toute seule. C'est en quoi elle ne cède pas elle-même d'ailleurs.
Petit peu comme une vieille personne qui veut pas qu'on lui donne le bras.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien dommage parce que l'autre n'est pas en train de faire une remarque désagréable. L'autre est en train de lui dire, eh bien, j'ai compris à demi-mot, c'est le cas de le dire, que tu étais en train de chercher ton étui à lunettes ou est passé tel objet ou tel objet. Et je finis. Mais je finis pour toi, ça ne veut pas dire je te coupe la parole.
Ni je te prends pour un imbécile, je termine parce que ça me donne plus de fluidité.
Mais parce qu'on est bien dans le même espace de communication et que ça se fait à deux. Et dans un espace de communication, par exemple, si je vous pose une question, j'ai le verbe, où est tel truc, et vous, vous avez l'objet, il est là.
Est-ce que vous pouvez nous redire en deux mots, docteur Monfray-Fauvadel, pourquoi on bégaye?
On bégaye parce qu'il y a une zone du cerveau, celle qui commande la parole, qui marche pas très bien et qui fait que le geste de la parole, c'est un geste, hein, c'est pas dans le langage la parole, c'est vraiment comment ça va sortir. Le geste de la parole a des ratés, il y a les muscles qui ont trop de tonus, tout ça, ça se met à trembloter, à se spasmer un petit peu et puis ça n'avance pas.
Ce n'est pas psy.
Ce n'est pas psy, mais c'est majoré par l'angoisse, l'anxiété et tout ça. Et ça peut être déclenché par un événement un peu traumatisant. Mais parce que la personne aura cette susceptibilité bègue, j'allais dire.
Donc pour répondre à Geoffrey, si c'est fait avec bienveillance, on peut terminer la phrase d'un bègue.
Tout à fait, tout à fait.
Le docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel a écrit un manuel du bégaiement et elle a également un blog, Parole de bègue. Je vous recommande, si vous ne l'avez déjà vu, le film de Tom Hooper, Discours d'un roi, qui est sorti en 2010 et qui est vraiment un film excellent. Daniel Linco est chimiste, spécialiste de l'énergie solaire, directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'École nationale supérieure de chimie de Paris et les lauréats de la médaille d'argent du CNRS.
Bonjour les petits bateaux, c'est Chloé qui habite en Bretagne dans le Morbihan. Ben, en promenant, j'ai vu des éoliennes et je voudrais bien savoir comment, en tournant, elles peuvent former de l'électricité. Merci, au revoir.
Ouh Chloé, ça c'est une très bonne question, une question très difficile en fait. Hein. Les éoliennes produisent de l'électricité parce qu'elles tournent. Et en fait, quand elle tourne, elle y a à l'intérieur des petits aimants qui sont disposés en face des autres. Et puis, il y a un petit fil électrique qui finalement, à chaque fois que l'on fait tourner les aimants, le rotor ou le stator, eh bien, il y a de l'électricité qui est générée dans le fil électrique. En fait, c'est grâce à ça que finalement, on peut convertir, parce que quand elle tourne, l'éolienne, ça veut dire que le vent donne son énergie mécanique, hein, il a de l'énergie, la preuve, regarde le vent. Quand tu sors dans la rue et qu'il y a du vent, un grand vent, eh bien, tu es poussé en arrière, comme si quelqu'un t'avait appuyé. Donc, ce que fait l'éolienne, c'est qu'elle fait tourner des aimants, et ces aimants, eux, grâce à ce qu'on appelle l'électromagnétisme, sont capables de produire de l'électricité dans des fils qui sortent. Et c'est grâce à ça que l'on peut convertir l'énergie mécanique du vent en énergie électrique. Tu as beaucoup d'exemples. Regarde, par exemple, tu prends deux aimants. Comment on les appelle, ceux qui sont sur les portes des frigos
Les magnètes.
Les magnètes. Hein. Ouais. Quand tu prends deux magnètes et qui n'ont pas envie, tu les mets dans une position, ils ne veulent pas se rapprocher. Il faut pousser. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les aimants, grâce au magnétisme, ils sont capables d'exercer des forces. Pour arriver à les rapprocher, il faut pousser fort et ils s'échappent. Donc en fait, quand on force un fil électrique, et c'est Ampère qui a trouvé ça, quand on force un fil électrique devant un aimant, eh bien ça produit de l'électricité. Et en fait, il y a un autre exemple qui est très connu, où on produit de l'électricité comme dans les éoliennes. Je ne sais pas si tu as un vélo, mais si tu as un vélo, il y a peut-être ce qu'on appelle une petite dynamo.
Ah mais oui, pour faire marcher le phare.
Exactement. Et c'est une sorte de petite éolienne. C'est toi qui fais tourner la roue, c'est pas le vent. Elle tourne, et quand tu le fais à la main, tu vois que c'est difficile, un peu comme des aimants. Et grâce à ça, eh ben, tu fais l'électricité pour ton phare avant, ton phare arrière, etc.
Ah que c'est bon le bruit de la dynamo, c'est le bruit de quelque chose qui marche bien. Merci Daniel Linco. Je vous rappelle le numéro de téléphone des petits bateaux, 01 56 40 43 57.
Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand.
Bravo, c'était Devendra Banhart sur France Inter où vous écoutez les petits bateaux. Les touristes le savent bien, quand ils viennent à Paris et aimeraient visiter Versailles, eh bien il faut qu'ils fassent une demi-heure de RER si tout va bien.
Bonjour, c'est Marion, j'aimerais savoir pourquoi les rois ils ont quitté Paris pour aller vivre en banlieue à Versailles.
Merci Marion, pourquoi les rois ont quitté Paris pour aller vivre en banlieue? Vous nous direz Mathieu Davignat si on employait déjà le terme banlieue. Vous êtes historien et directeur scientifique du centre de recherche du château justement de Versailles.
Bonsoir Marion, en fait il faut savoir que la monarchie par habitude était itinérante jusqu'au règne de Louis XIV, où Louis XIV installe en 1682 la cour et le gouvernement et le pouvoir à Versailles. Auparavant, la cour bougeait beaucoup Et au XVIe siècle, au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIII, même si le Louvre est la résidence ancestrale des rois de France, ils ont l'habitude de partir dans les châteaux de la Loire au XVIe siècle, ils ont l'habitude à l'époque de Louis XIII d'aller à Fontainebleau, d'aller à Saint-Germain, et même avant que Versailles devienne la résidence principale de la cour, c'est surtout à Saint-Germain, et donc on est déjà en banlieue, alors on ne dit pas la banlieue évidemment à l'époque.
Mais Louis XIV est né à Saint-Germain-en-Laye.
Louis XIV est né à Saint-Germain-en-Laye en 1638.
D'ailleurs, le symbole du PSG, il y avait un petit berceau avant que le Qatar ne...
Ah, ça, je sais pas, peut-être.
Alors je suis bien sûr, parce que je suis fière de vous apprendre quelque chose. Avant que le Qatar ne rectifie le logo du PSG, alors maintenant, je crois qu'il y a une fleur de lys. Autrefois, il y avait un petit berceau qui représentait le berceau de Louis XIV, né à Saint-Germain-en-Laye pour le PSG.
Bah oui, parce que Louis XIV donc, est né à Saint-Germain, et puis finalement, c'est dans les années 1670 que ça va s'inverser. On sait que Louis XIV n'aimait pas trop Paris. Pour diverses raisons. Longtemps, on a dit parce qu'il avait été marqué par la Fronde. En fait, c'est à Versailles, il voit la possibilité de s'étendre et de laisser libre cours à sa passion pour l'architecture. À Paris, il n'y a plus aucune possibilité d'étendre les châteaux parce c'est que plein. Le tissu urbain, le maillage est trop serré. Saint-Germain, c'est construit, c'est fini, ça fait longtemps que ça existe, même si ça a été perfectionné au XVIIe siècle. Alors qu'à Versailles, il voit ce petit château qu'appréciait beaucoup son père, et donc il faut savoir qu'il a été orphelin, il avait 4 ans et demi, donc tout ce qui peut rappeler le souvenir de son père est très important pour lui. Et il voit ces grandes étendues, et puis surtout, Louis XIV, c'est un homme de la campagne. Il adore chevaucher, il adore le plein air. Donc il voit certainement à Versailles la possibilité d'étendre ce château à l'infini et de construire ce qu'il a envie de construire. Donc il est parti en banlieue, et en tout cas, sans dire partir de la banlieue, on parlait de la campagne. Le duc de Saint-Simon, qui détestait Versailles, disait qu'en installant la cour à Versailles, il avait tiré pour toujours la cour de Paris pour l'installer à la campagne. Donc il y a cette idée que même si c'est la campagne, tout le monde fera en sorte d'essayer d'en être, y compris le duc de Saint-Simon, qui fera tout pour rester à Versailles toute sa vie, même s'il le détestait. Donc on a la création d'une ville nouvelle, entre guillemets, même si c'est un petit bourg qui existait, mais qui va prendre de l'ampleur pendant 107 ans, puisque l'installation à Versailles va durer 107 ans, entre 1682 et 1789, et ça n'empêche qu'il y aura toujours... À l'automne, Louis XIV va à Fontainebleau pendant 3 mois. Et puis à la fin de sa vie, on se rend compte que finalement, les 15 dernières années de sa vie, il passe beaucoup plus de temps à Marly qu'à Versailles.
Mais cela dit, Versailles, avec tous ses employés, avec tous ses ouvriers pour la construction, ça devait être une ville assez vivante, avec des auberges, des cafés, des marchés,
des
bordels,
c'était immense. C'était une ville qui avait 25 000 personnes. Alors à l'époque, c'est une grande ville qui a beaucoup d'auberges, qui a beaucoup de cabarets, d'hôtels, de chambres garnies, ce qu'on appelait, et des rixes, c'est-à-dire des gens qui se battent. Et donc il y a une police municipale, il y a également des bohémiens, on appelle ça des bohémiens, c'est-à-dire des gens qui viennent faire des démonstrations avec des ours et des choses comme ça, qui sont chassés parce qu'il ne faut pas perturber la vie des bons aristocrates qui habitent sur place. Donc c'est une ville vivante, une ville nouvelle. Alors ce n'est pas la capitale. Paris restera la capitale, même s'il y a un doublement des services gouvernementaux à Versailles, puisqu'on aura toujours le Parlement à Paris et c'est ce qui détermine la capitale et la vie économique reste à Paris.
Mathieu Davignat a écrit « Le Versailles de Louis XIV, le fonctionnement d'une résidence royale au XVIIe siècle » et c'est édité chez Perrin. Merci à Flora Bernard et Marjorie Devoucoux, à Jean-Baptiste Audibert et Pierre-Yves Derolin. Nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Vous pouvez aller faire un tour sur notre site parce qu'il est intéressant, podcaster l'émission ou vous procurer le livre des petits bateaux en livre de poche. Je vous laisse avec Denis Chessou pour l'Atelier Mon Petit Loup.